Ceci est une conversation avec Sébastien Boller, docteur en neurosciences, auteur et journaliste. Il est le rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho et a publié plusieurs essais, notamment le best-seller Le Bug Humain, qui interroge les freins propres à notre cerveau qui nous empêcheraient de prendre le virage nécessaire pour échapper à la destruction de notre environnement et à notre propre extinction. Il apparaît aussi à la fin de la BD Le Monde sans fin de Blin et Jean Covici, où il est représenté expliquant le lien qu'il y aurait entre le fonctionnement de notre cerveau, et en particulier cette partie qu'on appelle le striatum, et notre course effrénée à la croissance. Sébastien Boller a sorti plus récemment un autre essai titré justement Striatum, dans lequel il décrit une lutte interne à notre cerveau entre nos pulsions et notre capacité à contrôler ou atténuer ces mêmes pulsions. Si j'ai voulu parler avec Sébastien, c'est que cette question de savoir si oui ou non notre cerveau aurait un bug, c'est-à-dire une sorte de problème qui nous entraînerait vers notre perte, cette question est essentielle. C'est la question de la nature humaine et donc de notre liberté à décider ou non de notre trajectoire qui se pose. En effet, si c'est dans notre nature de vouloir toujours plus et surtout de ne pas pouvoir nous restreindre, alors notre marge de manœuvre est très limitée, voire inexistante. Mais si ce n'est pas le cas, si nous avons en nous les ressources pour changer nos comportements, alors nous retrouvons du pouvoir d'agir, on retrouve du libre arbitre, et il s'agit donc d'interroger d'autres structures, comme par exemple la culture, la technologie, l'économie, etc. C'est une conversation passionnante, sans faux-semblants, qui pour moi a permis de clarifier pas mal de choses. On parle de la prise de conscience écologique de Sébastien, du rôle du striatum et du cortex préfrontal, de la fonction de la dopamine, de la dynamique de croissance du vivant, de la spécificité de l'humain dans la nature, de nos comportements impulsifs, d'addiction, des structures sociétales qui jouent sur nos pulsions, de comment reprendre le contrôle, de liberté, de poulet, de lapin et de marche en montagne. Comme toujours, pour aller plus loin, abonnez-vous à la newsletter, suivez Sismic sur les réseaux et rejoignez la communauté Discord. Merci encore pour votre curiosité, merci pour votre ouverture d'esprit, pour vos dons et pour vos messages d'encouragement. Vous contribuez à mes shoots de dopamine quotidiens aussi bien qu'un cocktail à Tahiti. Enfin, en tout cas, c'est plus durable. Bonne écoute.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
Bienvenue sur Sismic.
Rien de tout ça n'est réel.
Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel?
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Julien.
Merci de m'accorder de votre temps. On va passer à peu près une grosse heure ensemble. Est-ce que vous pouvez commencer tout simplement par vous présenter brièvement, en racontant ce que vous faites et pourquoi?
Bah, bonjour, je suis Sébastien Boller, je suis docteur en neurosciences et rédacteur en chef d'une revue de neurosciences et de psychologie qui s'appelle Cerveau et Psycho, et également auteur d'ouvrages sur le cerveau, conférencier. Et je m'intéresse particulièrement depuis quelques années au rôle que joue notre cerveau dans nos comportements, et notamment nos comportements vis-à-vis de la planète dans le cadre des enjeux de transition écologique, puisque on a des comportements qui sont en partie dictés par nos impulsions nerveuses, et ces comportements, on voit qu'ils posent problème aujourd'hui, d'où l'idée d'aller les chercher un petit peu des réponses dans notre cerveau.
Ok. On va parler de cerveau, donc on va parler de comportement, on va parler de planète, d'écologie, tout ça. Dans ce podcast, en fait, j'ai reçu déjà plusieurs personnes pour discuter du fonctionnement de notre cerveau et plus généralement des comportements humains. Pour en citer quelques-uns, donc Albert Mokeberg, Thibaut Gressinger, Olivier Ciboni, aussi David Colomb pour parler des manipulations de masse, ou Mehdi Moussaïd sur les foules. Parce que, bah, évidemment, c'est intéressant de tenter de comprendre pourquoi on agit de telle ou telle sorte en tant qu'individu et en tant que groupe d'individus. Parce qu'on est à un moment de l'histoire, donc, où il semblerait que nos comportements collectifs posent quelques légers problèmes. En 2019, vous avez publié un livre qui s'appelle Le Bug Humain, qui a fait un carton, qui a été best-seller, qui a été primé, mais qui a aussi été critiqué par certains chercheurs en neurosciences ou en sociologie, du fait, les arguments, c'était parfois manque de nuances de certaines conclusions. Donc, on va discuter de ça, on va y revenir. Et puis, vous avez ensuite publié d'autres livres, dont un récemment nommé Striatum, je crois que si j'ai bien suivi, c'est votre dernier.
Oui.
Qui est cette partie du cerveau dont vous parliez déjà beaucoup dans le bug humain. Pareil, on va essayer de définir ça. Donc, il y a eu quelques discussions, quelques tribunes pour y répondre aussi autour de différents points évoqués dans le livre. Mais c'est pas vraiment là-dessus que je veux m'étendre. Bah, d'abord parce que je suis pas neuroscientifique, donc à mon avis, je serais vite perdu là-dedans. Mais par contre, je veux vraiment comprendre votre point de vue sur le lien, précisément, entre notre cerveau et la crise écologique actuelle, puisque c'est sujet central donc de vos derniers livres, avec notamment cette question que vous posez, qui est pourquoi, alors que nous sommes dotés d'outils extrêmement précis qui nous informent clairement de la tournure que vont prendre les événements dans quelques décennies, restons-nous impassibles?
Ouais.
Alors, première question, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à cette question-là? Et comment vous est venue l'idée qu'il y a un lien entre le fonctionnement de notre cerveau et cette crise écologique actuelle? Voilà, pour ouais. savoir d'où vous êtes parti.
Ah, les choses se sont passées en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période de temps, plusieurs années, je pense, pendant laquelle j'ai reçu des informations à bas bruit, en écoutant les médias, en observant l'évolution des milieux naturels, avec cette conscience progressive qu'il y avait un gros problème. Qu'on voyait des milieux se transformer, étant scientifique de formation, j'étais constamment conscient du fait qu'il y avait ces prédictions sur l'évolution du climat qui revenaient COP après COP, rapport du GIEC après rapport du GIEC, et le fait que le monde continuait à tourner de la même façon, c'était pas difficile de comprendre qu'on continuait à émettre énormément de gaz à effet de serre avec des conséquences dont on était parfaitement conscient, mais tout ça continuait. Mais pendant longtemps, en fait, ça a été une sorte de petite veilleuse en arrière-plan de ma conscience, comme ça. Et puis un jour, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Alors d'une part, moi, je suis habitué à aller en vacances à un endroit que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'île Dieu, c'est au large de la Vendée. Et puis j'ai vu des plages reculer, j'ai vu toute l'économie de la pêche s'est modifiée, les réserves halieutiques s'appauvrir. Et là, j'ai commencé à éprouver vraiment de l'inquiétude et de la colère. Voilà, première chose. Et puis en même temps, au même moment, j'ai commencé à noter des choses dans les médias autour de moi que je trouvais totalement surréaliste. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'entendre du jour au lendemain, sur des antennes nationales, des flashs d'informations dire « c'est une catastrophe, on va perdre la course contre le réchauffement climatique, avec des conséquences dramatiques ». Et puis 24 heures plus tard, super bonne nouvelle, on a vendu pour 50 milliards de contrats d'Airbus aux Émirats Arabes Unis, c'est génial, la croissance va repartir de plus belle. Et c'est là que... sans doute ayant été préparé en arrière-plan de ma conscience par toutes ces signaux à bas bruit, arrivé devant une situation où je me rendais compte que des personnes a priori éduquées, ayant accès à l'information, livraient des discours totalement incohérents, c'est-à-dire se plaignaient du fait que le monde allait s'effondrer, mais en même temps se réjouissaient des causes de cet effondrement, je me dis, il y a quelque chose, quoi. Il y a un problème dans la cohérence de nos représentations du monde et de nos comportements. Et puis, évidemment, c'était pas juste un signal d'alerte qui me venait de la part d'un journaliste qui s'exprimait à la radio. C'était qu'en y regardant de plus près, il était clair qu'on fonctionnait à peu près tous de la même façon. C'est-à-dire que moi, autour de moi, je voyais plein de gens prendre conscience du fait qu'il y avait un problème, mais dès qu'il s'agissait de passer à l'acte, continuer à consommer de façon excessive, à voyager pour l'agrément, à manger beaucoup de viande, à acheter des habits tous les mois, à changer de téléphone tous les ans. Et moi-même, quand je faisais mon bilan carbone, je me rendais compte qu'il était beaucoup trop élevé par rapport aux objectifs de 2 tonnes par an qui seraient nécessaires pour tenir les objectifs des accords de Paris. Donc, c'est là qu'il m'est apparu clairement qu'il y avait un hiatus manifeste entre d'un côté la conscience qu'on a des choses et de l'autre les comportements qu'on déploie au quotidien. Et que c'était quelque chose qui était si général que ça ne pouvait pas... être simplement une question de circonstances ou de culture, mais qu'il y avait probablement quelque chose de profondément incohérent au niveau de l'organisation psychique et nerveuse de notre cerveau. Pourquoi de notre cerveau? Parce que, en regardant les choses très factuellement, l'être humain est doté d'une grande intelligence qui lui a permis de développer des techniques extrêmement perfectionnées, de faire reculer la maladie, de faire reculer la mortalité infantile, d'envoyer des hommes dans la Lune, d'inventer des écrans à plasma, de voyager plus vite que le son, donc une intelligence instrumentale extrêmement développée. Mais de l'autre côté, cette intelligence ne parvient pas simplement à prendre des mesures de bon sens pour éviter de disparaître à moyen ou à long terme. Et donc, c'est bien ce cerveau qui doit quelque part être une des clés du problème, puisque l'être humain est la seule espèce dotée de ce cerveau et de cette intelligence, qui en même temps est capable de détruire sa planète. Donc il y a un problème, c'est-à-dire que ce cerveau que moi-même, de par mon activité de communication scientifique, j'avais présenté depuis des années comme étant la huitième merveille du monde, l'organe le plus complexe, capable d'enfanter des émotions, des souvenirs, de l'abstraction. En même temps, ce cerveau-là, si on faisait le bilan de son action sur les écosystèmes, sur la composition chimique de la planète et sur les chances de survie de l'humanité, ce cerveau-là probablement aurait un bilan absolument désastreux, puisque on parle aujourd'hui de l'anthropocène, du fait qu'il y a carrément une couche géologique composée de rejets plastiques de l'humanité qui est en train de devenir la marque de la présence humaine sur Terre, qui sera une marque de la pollution. Donc il y a ce problème-là. Et donc, je décidais simplement de me dire, s'il y a une incohérence dans le cerveau, s'il y a un défaut quelque part, allons voir où il peut se situer. Et là, on voit très, très rapidement que notre cerveau est composé de différents modules, différentes régions qui communiquent, mais qui communiquent peut-être pas de façon toujours parfaitement harmonieuse. Voilà.
Mmh. OK. Bon, on va essayer de parler de tout ça. C'est intéressant de voir aussi qu'il y a un postulat de départ qui est que il y a un lien très très fort entre nos comportements et nos structures cérébrales. Ça c'est pareil, ça fait partie justement des recherches neuroscientifiques et c'est ce qui provoque pas mal de débats. C'est entre ce qui est de l'ordre de notre nature profonde, de la structure de notre cerveau et nos agissements, il y a plein de manières d'interpréter les choses, et puis il y a différentes sciences qui existent entre la psychologie, la sociologie, justement les neurosciences. Donc on va essayer de faire le tri aussi entre tout ça et de regarder de quoi on est sûr, de quoi on n'est pas sûr, qu'est-ce qui est discuté ou pas. Alors, moi, ça a été assez dur de préparer cette interview parce que, justement, il y a beaucoup de choses que on sait. Enfin, c'est une discipline, c'est une science dure avec des observations, mais il y a aussi beaucoup de flou et beaucoup de débats parce que c'est une discipline assez nouvelle, finalement, qui est l'étude du fonctionnement du cerveau. On observe des choses, mais on n'arrive pas tout de suite forcément à faire le lien entre ce qu'on va observer, les comportements, etc. Et donc voilà. C'était pas facile de faire le tri, en tout cas, de regarder quels sont les grands sujets. Et puis, c'est sûrement trop technique pour moi, mais je voudrais quand même essayer de clarifier certains points, notamment qui sont au centre de votre thèse. D'abord, au centre de vos livres, il y a une partie du cerveau qui s'appelle striatum. Et puis, il y a un autre mot qui revient très, très souvent, qui est la dopamine et l'interaction entre les deux. Est-ce qu'on peut commencer par introduire ça? Qu'est-ce que c'est que le striatum et comment est-ce que vous en êtes arrivé à la conclusion que ces deux choses-là, striatum et dopamine, en fait, étaient clés pour comprendre le comportement humain? Quel rôle ça joue là-dedans?
Alors, le striatum, c'est une région de notre cerveau qui est située dans les profondeurs du cerveau et qui est la plaque tournante d'un réseau de neurones, de cellules nerveuses, qu'on appelle le système de la récompense. Et c'est-à-dire que c'est un ensemble de neurones qui nous récompense en suscitant une sensation de plaisir quand on se livre à un certain nombre de comportements. Et ces comportements, on peut en dresser la liste. Il y a, par exemple, le fait de manger, le fait d'avoir des relations sexuelles, le fait de jouer, le fait d'écouter une belle musique qui nous plaît. Dès qu'on fait quelque chose qui suscite en nous du plaisir, il y a cette partie du cerveau qui s'active et qui libère de la dopamine. Donc c'est une molécule, un neurotransmetteur, donc qui sert à transmettre l'information d'un neurone à l'autre et qui est, le marqueur à la fois de la motivation à réaliser un comportement et du plaisir qu'on en retire quand on atteint son objectif. C'est pour ça que ce système s'appelle le système de la récompense. Et donc, il va jouer un rôle dans toutes les actions qu'on entreprend et qui sont motivées. Quand je fais quelque chose parce que j'en ai envie, parce que il y a une motivation derrière et parce que j'en attends une gratification, ce qu'on observe, c'est l'activation de cette région du cerveau. Et donc, c'est un puissant incitateur de nos comportements. Quand on va se lever le matin et qu'on va décider de faire quelque chose, ça va être le plus souvent parce que derrière, il y a cette récompense qui nous vient sous forme de dopamine dans notre striatum. Voilà, en gros, pour schématiser. Il n'est pas tout seul, évidemment, dans le cerveau. Il y a d'autres régions du cerveau qui vont pouvoir éventuellement modérer son action ou la répartir dans le temps ou plutôt de façon instantanée. Mais c'est le grand motivateur à travers ce plaisir lié à la libération de dopamine.
Ok, alors ça fait, c'est un premier point, on peut rester, après je pense qu'on va reparler sur le striatum, mais est-ce que sur la dopamine, j'étais un peu confus là-dessus, parce qu'en lisant, donc ça c'est effectivement ce que vous expliquez dans le livre, c'est qu'il y a cette idée de circuit de la récompense, et que donc ça va créer des habitudes, ça va motiver, ça va ancrer des comportements. En faisant quelques recherches, je suis tombé sur un article de Mark Humphries, qui est neuroscientifique à l'université de Nottingham, qui explique qu'il y a plusieurs types de dopamine, je savais pas, la lente et la rapide, et que la rapide est un simple système de prédiction d'erreur. Donc lui, il dit c'est pas une récompense produite qu'on obtient contre quelque chose de quand quelque chose est bien, elle est produite simplement quand on obtient quelque chose qui n'est pas attendu. Oui, il dit ça n'a rien à voir a priori avec l'idée de plaisir ou de récompense. Et il dit il y a la dopamine lente qui est un peu plus liée à ça, mais qu'on connaît finalement très assez mal apparemment, qui serait produite pour nous pousser à vouloir des choses. Donc quand c'est comme le rat qui cherche quelque chose et dans son circuit là que vous décrivez dans un de vos livres, il produit de la dopamine parce que c'est ça qui le pousse à aller l'avant. Et donc effectivement quand on vous lit, on a l'impression qu'il y a un lien très très fort entre dopamine et plaisir et que c'est cette recherche de production de dopamine dans notre cerveau qui nous pousse à vouloir notamment toujours plus. Voilà. Et puis après il y a d'autres et puis donc je vous ai juste clarifié ça en fait, quel est le circuit de la récompense et le lien avec la dopamine et qu'est-ce qu'on en sait, etc.
La dopamine ne fait pas que donner du plaisir, mais à chaque fois qu'on a du plaisir, il y a de la dopamine. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Alors effectivement, la question de la prédiction de l'erreur par la libération de dopamine, par exemple, typiquement, mais ça c'est ce que je décris dans l'ouvrage qui fait suite au bug humain, qui s'appelle « Où est le sens ?», où je décris justement ces circuits de dopamine qui font que quand vous êtes, par exemple, vous allez à la machine à café le matin, vous appuyez sur le bouton, je sais pas, cappuccino. Au moment où vous appuyez sur le bouton cappuccino, vous avez de la dopamine qui commence à être libérée et qui fait une prédiction sur le fait que vous allez recevoir un gobelet de cappuccino. Et si le gobelet arrive, eh bien le résultat de l'action est conforme à la prédiction. Donc ça va valider en fait l'enchaînement d'événements qui vous permet de représenter la cohérence de vos actions. Par contre, si le technicien, par exemple, a interverti les recharges de cappuccino et de potage à la tomate et que vous retrouvez avec un potage à la tomate, à ce moment-là, vous avez une région de votre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur et qui envoie un signal d'erreur de prédiction, qui dit, il y avait une prédiction qui a été faite comme quoi vous attendiez du cappuccino. En fait, vous avez un potage à la tomate. Et donc là, il y a un signal d'erreur qui est envoyé par cette partie du cerveau qui a reçu de la dopamine rapide, effectivement. Donc, la dopamine, elle sert aussi à l'apprentissage. Donc elle sert à pas mal de choses. Mais ce qui est vrai, c'est que à chaque fois qu'on a du plaisir, il y a la libération de dopamine dans le striatum. Et ça, c'est des expériences qu'on peut faire à la fois quand vous buvez un bon vin, quand vous avez des relations sexuelles. Dès que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé, c'est un fait, on l'observe en imagerie cérébrale, il y a libération de dopamine dans le striatum.
Et est-ce que, parce qu'il y a d'autres types de déclencheurs, comme la sérotonine ou les neuropeptides ou le opioïde, hein, que j'ai découvert pareil hier, et certains disent que la dopamine, justement, n'a pas tellement d'importance par rapport à d'autres éléments chimiques. Est-ce que c'est vraiment si central que ça dans les comportements, en fait, dans ce qui va précisément nous faire vouloir quelque chose? Parce que c'est vrai qu'on entend maintenant beaucoup parler de dopamine en disant, si on veut chercher du plaisir, si on veut aller à l'autre bout du monde, si on veut toujours plus, c'est parce que on est un peu addict à la dopamine. Est-ce que c'est réducteur de dire ça? Est-ce que la dopamine, ça participe à d'autres choses, mais finalement, on est dans un sujet qui est quand même un peu plus complexe et que vous avez voulu vulgariser pour que ce soit intelligible? Ou alors, est-ce que c'est vraiment un truc qui est central dans nos comportements?
Alors non, c'est absolument central. On peut parler de la sérotonine et des opiacés. La sérotonine, donc, c'est un autre neurotransmetteur qui, lui, n'est pas du tout impliqué dans la motivation, qui est impliqué dans l'humeur. C'est typiquement le neurotransmetteur qui fait défaut en cas de dépression, qui fait que, grosso modo, si vous avez des taux de sérotonine suffisants, vous levez le matin, vous vous sentez globalement bien. Si vous en avez pas assez, vous allez ressentir une sensation de vide et une difficulté à avoir des pensées relativement stables vis-à-vis de vous-même, vous allez avoir tendance à vous dévaloriser. Enfin, tout apparaît beaucoup plus sombre. La molécule de l'humeur, la sérotonine, c'est quelque chose qui va agir de façon beaucoup plus diffuse et beaucoup plus stable dans le temps, pas de façon aiguë. ce qui caractérise la dopamine, c'est que elle va être émise de façon ponctuelle, beaucoup plus localisée dans le temps, en réponse à un stimulus qui va vous apporter une gratification. Et si on prend les opiacés, c'est effectivement une autre molécule qui apporte une sensation de bien-être, mais là encore qui passe par d'autres circuits, donc c'est les récepteurs aux opiacés. Les opiacés, c'est ce qui produit la sensation d'anesthésie, ce qu'on va retrouver dans la morphine, ce qu'on va retrouver de façon encore beaucoup plus purifiée dans l'héroïne, et qui fait que lorsqu'on ne l'a plus et que le système neuronal s'est adapté à la présence d'héroïne ou de morphine, vous avez le contraire de l'anesthésie qui intervient, c'est-à-dire une hyperalgésie, c'est une hypersensibilité à la douleur et une sensation de souffrir en permanence. Donc, c'est des systèmes de neurotransmetteurs qui sont très différents les uns des autres. Là où la dopamine est, je veux dire, faut faire le tour à ce moment-là des congrès et parler aux personnes qui travaillent là-dessus, qui ont fait leur carrière là-dessus. C'est vraiment universellement reconnu en neurosciences. Hein, je ne sais pas qui vous a mis le doute là-dessus. Sur le fait que c'est une molécule de la motivation, du plaisir lié à l'obtention d'une récompense, et qu'elle est sujette à un phénomène d'assuétude et qu'elle est systématiquement impliquée dans les addictions, parce que lorsqu'on s'administre par exemple une dose de drogue ou une satisfaction de façon régulière et de façon répétée, au bout d'un moment, la dopamine est libérée en quantité de plus en plus faible, et donc on a de moins en moins de plaisir, et que la seule solution à ce moment-là pour en récupérer, c'est d'augmenter les doses, ce qui est la base en fait de la tolérance dans les mécanismes de dépendance. Donc, si on devait résumer, on dirait que c'est ce qui crée la motivation à avoir du plaisir de façon assez dynamique dans le temps par rapport à la sérotonine et à l'humeur, et qui est sujet à un mécanisme d'escalade.
Ok. Je voudrais revenir sur le striatum, parce que donc il y a cette idée pour qu'on en parle, parce qu'on n'a pas vraiment défini ce que c'était, d'où il nous venait et pourquoi il était important selon vous dans les conditionnements de nos comportements et surtout aujourd'hui. Donc on a bien compris que dans la dopamine, il y a cette idée qu'elle jouerait un rôle de plus en plus important quelque part dans le fait qu'on a du mal à se contrôler et dans le fait qu'on va revenir sur cette idée qu'on est poussé vers toujours plus, qui serait, hein, il y a un lien entre ça et la crise écologique actuelle. Donc, il y a différentes parties du cerveau qui sont identifiées. Et pareil, est-ce que c'est vraiment si important ou pertinent de distinguer à ce point les différentes zones du cerveau? Parce que vous présentez parfois les choses comme si il y avait deux zones du cerveau qui s'affrontent, qui sont en lutte pour le contrôle de notre comportement, pour savoir laquelle va décider de ce qu'on va faire ou non, et notamment dans l'striatum du cortex préfrontal, c'est ça? Donc, pour bien comprendre ce que dit la science, Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un peu comme ça se passe? Puis après, on arrêtera avec les détails du cerveau, puisque c'est pas l'essentiel ici que je veux aborder. Mais voilà, est-ce que pourquoi le parler du striatum et savoir ce qui s'y passe, c'est important? Ou alors, est-ce qu'encore une fois, il s'agit de simplifier, et on s'en fiche un peu de la chimie, de savoir dans quel endroit ça se passe? Ce qui est important, c'est de savoir qu'on est en lutte, un peu comme le système 1, système 2 de Kahneman, où il y a différents modes de fonctionnement du cerveau.
Alors, pourquoi est-ce que c'est... Pourquoi identifier effectivement un substrat biologique à un certain nombre de comportements? Moi, je vous ai expliqué comment ça s'est passé, c'est-à-dire que au fil de mes veilles scientifiques, le travail de rédaction de revues de questions sur des années et des années, vous voyez sur des centaines de publications revenir certaines constantes. Et moi, ce qui m'a frappé au bout d'un moment, je voyais à chaque fois que je voyais une publication sur un comportement, soit un comportement pulsionnel, soit un comportement addictif, soit un comportement de recherche de plaisir, systématiquement, une image d'IRM du groupe de chercheurs qui avait produit ce papier, qui mettait en avant cette partie du cerveau avec ce mot-clé striatum. Et là, vous vous dites, ça vaut le coup de s'y intéresser, quoi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a ce dénominateur commun? Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'y passer du temps? Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, on pourrait rendre la chose plus abstraite et se dire que c'est juste un principe de désir et de désir de toujours plus, sans forcément mettre un substrat neuroanatomique derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on met le doigt sur une région du cerveau, cette région, elle a une histoire, c'est-à-dire que si on prend les ces zones qu'on appelle sous-corticales qui sont anciennes à l'échelle de l'évolution, on voit qu'elles sont pas présentes seulement chez l'être humain, qu'elles sont présentes chez tous les vertébrés, que c'est une région du cerveau qui existait déjà chez des poissons fossiles du précambrien il y a 400 millions d'années, et que cette partie du cerveau a grossi, certes, entre les poissons du précambrien et les premiers primates il y a 10 ou 15 millions d'années, mais qu'elle a tracé son chemin et qu'elle a gardé un même principe d'organisation. Et donc, ça pose la question, qu'est-ce qui fait la robustesse d'un tel objet neurologique? Qu'est-ce qui fait que cet objet neurologique, cet acteur de notre cerveau, a traversé les âges? Et c'est là que ça commence à faire sens quand vous dites que sa fonction, c'est de motiver un être vivant, qu'il s'agisse d'un poisson ancestral, d'une musaraigne, d'un chimpanzé ou d'un être humain, à réaliser des comportements. Parce que une structure neurologique qui va inciter un animal à reproduire des comportements, elle a intérêt à être calibrée, hein, pour être sélectionnée par l'évolution, de manière à lui faire réaliser des comportements bénéfiques pour sa survie. Et ces comportements bénéfiques, on va voir que d'une branche du vivant à l'autre, à travers le phylum des vertébrés, ça va être toujours à peu près les mêmes. Il va falloir trouver à manger, il va falloir se reproduire, il va falloir, quand on est un animal social, avoir un certain pouvoir dans son groupe social. Et ce sont ces constantes qui vont à chaque fois provoquer de la libération de la dopamine dans le striatum. C'est pour ça que c'est assez fascinant, parce que ça permet de comprendre qu'il y a quelque chose en nous, effectivement, qui est une force d'action. C'est pas un déterminisme, hein, pas du tout. C'est une force qui pousse dans un certain sens, mais de comprendre que ça vient de loin, et que si aujourd'hui, parfois, on se surprend à avoir des comportements de consommation un peu automatique, ou qu'on voudrait pas forcément qu'ils soient aussi importants, si on se surprend à les avoir aujourd'hui, c'est de se dire, mais c'est pas pour rien. On n'est pas totalement démunis face à ça. Ça a une longue histoire, ça vient de loin. Et c'est une façon de poser le problème qui réinscrit l'humain dans une temporalité longue, qui le rend héritier de processus à très très long terme, et qui, d'une part, je crois, peuvent être déculpabilisant, de dire, c'est pas forcément parce que je suis quelqu'un de foncièrement consumériste ou perverti ou j'en sais rien que je fais comme ça, c'est aussi parce que je suis héritier du vivant et qu'il fonctionne de cette façon depuis longtemps. Et en même temps, c'est très responsabilisant, parce qu'une fois qu'on sait qu'il y a une force qui a tendance à nous faire agir de cette façon-là, se pose la question, si j'ai une liberté, je dois prendre en compte ce facteur intérieur pour mettre en œuvre ce que j'estime approprié, afin de ne pas être réduit, en fait, à cette pulsion-là.
Donc, c'est dire qu'en nous, hérité de longue date qui nous vient du fond des âges, on a cette pulsion, en fait, cette pulsion de vie, pulsion de puissance, pulsion de croissance, pulsion de survie, de reproduction, etc. C'est presque de se dire que ça serait dans le striatum que c'est géré, en lien avec la dopamine notamment. C'est le siège du conatus de Spinoza qui pousse les choses à vouloir persévérer dans leur être à tout prix, ou c'est là qu'il y a cette espèce de volonté universelle, même de Schopenhauer, pour faire un peu de philo, qui nous dit qu'il y a ça fait partie du vivant, en fait, et c'est codé à l'intérieur du cerveau primitif, cette pulsion de vouloir rester en vie, cette pulsion de vouloir se nourrir et de vouloir croître. C'est ça, parce que vous développez aussi cette idée de croissance, c'est-à-dire qu'il y a un principe de croissance dans le vivant auquel on n'échappe pas et qui se retourne un peu contre nous aujourd'hui. Et c'est un petit peu ça le bug humain, c'est ça?
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Oui, la volonté.
On peut développer.
L'instinct de survie qui fait que sur des millions de générations d'animaux vertébrés puis de mammifères, puis des milliers, voire des centaines de milliers de générations d'humains, à aucun moment la chaîne de la vie ne s'interrompt. On se rend pas compte, mais pour que un système de transmission soit aussi robuste, il faut quelque part un hardware extrêmement puissant pour faire en sorte que jamais on arrête de vouloir se nourrir, se reproduire et survivre en milieu naturel. Donc c'est quelque chose qui doit être résistant à toutes les formes de modulation par le contexte, y compris par la culture, c'est-à-dire que le jour où ce système ne fonctionne plus, la vie s'arrête. Le fait que la vie soit aujourd'hui encore présente après être passée par autant de possibilités d'échecs montre qu'il y a quelque part quelque chose d'extrêmement solide. ça pourra peut-être heurter certaines sensibilités, mais c'est un fait, c'est-à-dire que c'est impossible autrement, ce système est extrêmement puissant. Derrière, on avait dit parler d'un principe de croissance qui est au cœur de la vie elle-même. Oui, évidemment, c'est-à-dire que au départ de la conception de la théorie de l'évolution, les premières réflexions de Darwin, si vous relisez ses écrits, il constate que les différents animaux qui se reproduisent, notamment par reproduction sexuée, vont avoir des portées nombreuses. En général, alors chez les mammifères, ça va être plusieurs enfants, voire plusieurs dizaines, chez des lapins, chez d'autres animaux, chez les reptiles ou chez les batraciens ou chez les poissons, ça va être des milliers ou des centaines de milliers d'œufs. Il se dit, si à chaque génération, le nombre d'individus était multiplié par 3, 4, 10, 100 ou 1000, il y aurait déjà des empilements d'animaux jusqu'aux étoiles. Donc, en fait, la majorité des animaux, à chaque génération, sont éliminés. Et donc, il y a production d'un surplus de rejetons à chaque génération pour que quelques-uns survivent. Et l'espèce qui va arriver à passer à travers les mailles de la sélection, c'est celle qui va produire le plus de rejetons et, pour pouvoir produire le plus de rejetons, s'approprier le maximum de ressources de son environnement par la quête de ressources alimentaires, que ce soit la chasse, que ce soit la cueillette, que ce soit les différents moyens que les animaux utilisent pour trouver à manger. Et donc, il y a forcément, au départ, le gage de la survie, c'est de prendre le plus possible et de produire le plus possible aussi d'individus à la génération suivante. Ça, c'est bon. On est programmé comme ça. Dès la duplication des premières molécules d'ADN dans les océans primordiaux, l'ADN est une molécule réplicative. Et celle qui fait le plus de copies d'elle-même, c'est celle qui est le plus présente à l'arrivée. Donc, il y a effectivement ce principe de croissance dans la vie.
Sachant qu'il y a aussi des subtilités, puisqu'il y a certaines espèces qui ont des stratégies de reproduction extrêmement rapides, extrêmement nombreuses, alors que d'autres, comme nous, se reproduisent plus difficilement, assez peu. Donc, il y a une espèce d'ajustement global du jeu du vivant.
Exactement, oui.
Avec différentes stratégies quand même.
Ce qui compte, c'est la fitness. Donc la fitness, c'est la capacité à survivre et à transmettre ses gènes. Et pour transmettre vos gènes, vous pouvez soit en faire beaucoup, soit en faire un peu moins, mais y consacrer plus d'attention pour augmenter les chances de survie des enfants. Et c'est typiquement ce qui va être le cas dans l'espèce humaine, puisqu'on voit très bien que le petit humain, quand il vient au monde, à la différence d'autres mammifères, n'est pas du tout prêt à l'emploi, il est très très fragile, son cerveau n'est pas totalement mature, il peut pas marcher, il peut pas parler, il peut pas se débrouiller, et donc il a besoin qu'on s'occupe de lui plus longtemps. D'où l'intérêt d'investir du temps pour s'occuper des petits. Et il serait complètement inutile d'en faire 50 si on n'était pas capable d'investir du temps pour s'en occuper. Mais néanmoins, il existe quand même encore dans l'espèce humaine une corrélation assez nette entre le nombre d'enfants qu'on a en bas âge et le nombre d'enfants qui survivent par la suite. Donc, quand même encore. Enfin, ça dépend aussi si on raisonne chez l'homme ou chez la femme, puisque les stratégies vont être très différentes. Et là encore, la sensibilité du striatum au stimuli sexuel va être aussi assez.
Et le bug humain, ça serait cette idée qu'à un moment donné, si j'ai bien compris, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre espèce de spécial qui nous différencie des autres, c'est que on a trouvé le moyen un peu de hacker le jeu. C'est-à-dire qu'on est conditionné par cette même pulsion de croissance, de reproduction, etc., d'aller rechercher des ressources pour faire fonctionner tout ça, de l'énergie, manger, hein, mais qu'à un moment donné, on a su s'affranchir du fait d'inventions techniques ou culturelles, etc., des limites qui sont imposées au reste du vivant. C'est ça, cette idée de bug ?
Bah oui, le bug, il existe que dans l'humain, parce que, je sais pas, n'importe quelle autre espèce animale, vous avez effectivement... Bon, le striatum qui est là, l'instinct de reproduction, l'instinct de survie, qui fait que chaque, je sais pas, vous prenez par exemple les lapins, ils vont se reproduire, d'accord, mais jamais ils vont envahir la planète, sauf quelques cas particuliers dont on pourra reparler, comme ça a été le cas en Australie à un moment donné, mais ils vont jamais envahir la planète parce qu'en fait, ils se heurtent à leur propre faiblesse, ils peuvent pas non plus s'approprier toutes les ressources alimentaires, ils ont des prédateurs. Ils ont une mortalité infantile, les petits sont bouffés par les renards. Donc, la pulsion de croissance démographique et de reproduction du lapin est compensée, en fait, par l'adversité, par les prédateurs et par le manque de ressources. Et c'est le cas pour toutes les populations animales qui finissent par trouver un équilibre parce que elles se heurtent aussi à la présence d'espèces concurrentes ou par, au manque de ressources alimentaires. Et donc, ce qui s'est passé avec l'être humain, c'est très particulier, effectivement, parce que dans l'espèce humaine apparaît quelque chose d'unique qui est la maîtrise de l'outil. Donc, et là, c'est grâce à l'intelligence conceptuelle que nous procure notre cerveau, avec des zones justement du cerveau comme le cortex préfrontal, comme les zones associatives du cortex qui permettent de conceptualiser les choses, d'imaginer comment on pourrait utiliser, par exemple, des cailloux pour les tailler, pour en faire des armes, et puis ensuite comment on peut utiliser des bouts de bois pour en faire des javelots, puis ensuite comment on peut utiliser du minerai pour en faire des socles de charrues, pour labourer la terre, et puis comment on peut ensuite utiliser les graines pour les planter, pour contrôler la production alimentaire, puis comment on peut mettre les animaux dans des enclos, tout ça grâce à l'intelligence et à la collaboration entre êtres humains, et puis ensuite on va inventer le moteur à explosion, inventer plein de choses, inventer les antibiotiques, et tout ça va faire qu'on va pouvoir prélever toujours plus de ressources alimentaires, sans être aussi limité que peut l'être un lapin, et on va aussi être en mesure de combattre les pertes en ligne, la mortalité infantile, grâce à la médecine, grâce à la compréhension de comment fonctionnent des micro-organismes. Voilà. Et on voit qu'à ce moment-là, le développement énorme du cortex cérébral humain, qui procure l'intelligence abstraite, va permettre de faire sauter en fait les barrières à la croissance et faire diminuer la mortalité, va augmenter l'accès aux ressources alimentaires quasiment sans limite. On va dire le summum en fait de cette évolution étant le moment où on comprend qu'on peut tirer une énergie quasi infinie du sous-sol à travers les énergies fossiles, où là on peut produire des machines qui vont littéralement faire le travail à notre place et satisfaire en fait les besoins de notre striatum, qui ont guère changé depuis celui d'un lapin ou d'un renard ou d'un loup, mais les satisfaire sans limite grâce à la technologie qui est vraiment produite par l'intelligence. Donc cette intelligence, ce cortex cérébral qui s'est fortement développé dans l'espèce humaine, c'est notre allié. Mais le problème, c'est qu'il conduit à une croissance illimitée dont on touche aujourd'hui les limites. Et là, on est bien embêté.
Je voudrais rester un petit peu là-dessus, puis on va revenir sur l'époque actuelle, mais pour savoir d'où on vient, parce que ça fait partie aussi, il y a beaucoup de passages sur l'histoire dans vos livres. Et vous parlez notamment beaucoup de génétique et cette idée que nombre de nos comportements, notamment impulsifs, donc localisés dans certains de nos cerveaux, nous viennent des habitudes de nos ancêtres ou de comportements qui auraient gagné au jeu de la sélection. Donc, par exemple, notre difficulté à nous retenir de manger gras viendrait du fait que on descend de ceux qui ont le mieux survécu parce que justement ils avaient plus envie de manger gras que les autres à l'époque des mammouths. Et donc le problème serait que ces comportements ne sont plus adaptés aujourd'hui et qu'il y aurait une sorte de déterminisme biologique. Est-ce que vous pouvez me parler de cette logique aussi qui paraît pas si évidente que ça, parce qu'on se dit comme ça intuitivement qu'il y a à la fois des comportements de compétition qui ont pu gagner le jeu de la sélection, mais en même temps des comportements de coopération qui ont gagné aussi à ce jeu-là. Par moment, l'humain a su se restreindre pour pouvoir continuer à survivre dans des conditions où il n'y avait pas d'abondance. Enfin, voilà. Donc, comment on arrive à cette idée qu'on descendrait de ceux qui sont les plus impulsifs quelque part, ou les plus avides de croissance?
Alors, il y a la contrainte qui pèse sur nos ancêtres, on va dire, 3 millions d'années, prenez Homo erectus, qui commence à vivre de la chasse plus que ses prédécesseurs, et où on note cette concomitance entre l'augmentation du volume crânien des hominidés, on devrait plutôt dire, et le fait qu'il y a une alimentation qui est davantage carnée. Et aujourd'hui, on s'accorde globalement dans les milieux de la paléoanthropologie pour le fait de dire que vraiment il y a eu un apport essentiel de l'alimentation carnée au paléolithique dans la capacité de nos ancêtres à retirer plus d'énergie de leur alimentation pour pouvoir permettre d'investir de l'énergie dans la construction d'un cerveau plus gros. Et donc dans ces conditions-là, la chasse collective, et ça c'est important, parce qu'effectivement l'être humain n'aurait jamais pu s'en sortir en étant un prédateur isolé, c'est pas un jaguar ni un ours des cavernes. La chasse collective va permettre de s'attaquer à des animaux, y compris des animaux de taille croissante, pour prélever de la viande et pour pouvoir se nourrir ponctuellement avec des quantités importantes de viande. Là où c'est important, c'est de comprendre que effectivement il va y avoir l'importance du collectif pour y arriver, et c'est le moment où se développent aussi d'autres régions du cerveau extrêmement importantes pour la vie en groupe, notamment le cortex préfrontal qui est vraiment le pivot de la synchronisation des actions dans un groupe. Et puis, le fait de, une fois qu'on a capturé une proie, s'alimenter de façon profitable. Et il faut voir que c'est quand même des conditions de vie où on n'a pas de réfrigérateur, on n'a pas de moyen de garder la viande, et on n'a pas de moyen d'obtenir de la viande simplement en allant au supermarché quand on a envie. Donc, il faut quand même comprendre que ces ancêtres du paléolithique, et ça va de 3 millions d'années jusqu'à presque jusqu'à l'aube de l'histoire, donc ça s'étend sur 3 millions d'années, ces ancêtres-là, concrètement, vont être dans des situations où ils vont capturer une proie en chasse collective et vont devoir s'alimenter avec sans savoir s'ils vont en retrouver une autre avant 1, 2, 3 semaines, 1 mois, sans pouvoir conserver la viande et en ayant le risque de se le faire piquer par les prédateurs, puisque même les lions dans la savane, quand ils abattent une antilope, ils se font très vite disputer par des hyènes. Donc c'est quand même un moment où, pour survivre, il faut pouvoir faire des réserves. Et donc, on voit les reliquats, en fait, de ce conditionnement-là dans les comportements d'alimentation compulsive qui subsistent encore chez certaines personnes dans certaines circonstances, même dans un monde où on pourrait être rassuré par le fait qu'il suffirait, on n'est pas obligé de faire des réserves tout de suite maintenant pour que notre survie soit garantie. On peut aller faire des courses, on peut mettre notre nourriture au réfrigérateur. Mais il faut voir que pour nos ancêtres, vraiment, probablement, et là, bon, évidemment, c'est peut-être une des faiblesses de ces raisonnements qui sont difficiles à vérifier, mais paléoanthropologues quand même s'accordent assez souvent pour dire que voilà, vous abattez une proie, vous avez intérêt à manger tant que c'est possible, quoi. Et si ensuite vous n'en trouvez plus pendant un mois, bah, si vous n'avez pas assez fait de réserve le moment venu, bah, c'est terminé. Donc, votre lignée s'éteint. Et donc, si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, des gènes qui auraient porté à la modération en ces temps-là auraient eu moins de chances d'être transmis à la génération suivante que d'autres gènes qui auraient dit à leur propriétaire, bah, vite, mange le plus possible tant que c'est possible. Le fait est qu'il y a une grande vulnérabilité quand même du système de récompense à ce qui est calorique. Hein, toutes les personnes qui font des régimes vous le diront, j'ai du mal à me restreindre. Quand je vois un carré de chocolat, quand je vois une bonne entrecôte, quand je vois un burger, quand je vois un sachet de chips, j'ai du mal à résister. Ça va taper exactement sur ce système-là, il a été fait pour ça, il a été fait pour nous permettre de survivre. Alors, évidemment, et là où ça devient intéressant, je suis content que vous abordiez la question, c'est que il faut aussi, à certains moments, pouvoir faire des réserves. C'est-à-dire que, mais ça va être plus le cas à partir du moment où on va pouvoir effectivement stocker de la nourriture. Et c'est moins le cas il y a 2 millions d'années chez Homo erectus qu'il y a 8 000 ans ou 10 000 ans chez les hommes du néolithique qui vont faire des stocks de grains, par exemple. Et on voit notamment qu'il y a toute une partie des migrations vers l'Europe occidentale, vers des climats plus septentrionaux, donc plus froids en hiver, qui imposent de faire des stocks pour l'hiver. Et que là, il y a probablement les capacités d'autorégulation qui deviennent très importantes. Et moi, ce que je développe comme théorie dans Striatum, qui est en fait un ouvrage plutôt qui est consacré au rôle du cortex préfrontal, c'est que le cortex préfrontal, qui au départ est quand même un organe de la socialisation et de la collaboration, va être mis à profit justement pour réguler nos pulsions individualistes et nos pulsions de consommation instantanée. C'est-à-dire qu'un être... on va dire très schématiquement un Homo erectus qui évolue pour arriver à l'époque du néolithique et se dirait maintenant je veux manger tout ce que j'ai sous la main tout de suite, il passerait pas forcément l'hiver. Et donc il va avoir intérêt à mobiliser son cortex préfrontal qui lui est un véritable contre-pouvoir au striatum, qui est capable de dire au striatum non, tu as envie de te faire plaisir maintenant, mais résiste parce qu'il faut penser à long terme. Et c'est pour ça qu'il faut voir notre cerveau comme un organe composite dans lequel il va y avoir des forces de pulsion de satisfaction instantanée, très animale, très semblable à ce qu'on peut observer chez un rat à qui on donne des boulettes de graisse, et des forces de régulation de ces pulsions qui prennent en compte la temporalité longue. Et c'est ça que fait le cortex préfrontal, c'est pour ça qu'il est très bon, et pour ça qu'il peut être une clé aussi pour l'avenir.
Oui, et c'est là aussi qu'il peut y avoir un peu de confusion et qu'on peut clarifier, parce que de fait, on peut se dire presque intuitivement, ça paraît assez logique de se dire qu'on descend par exemple des individus dominants qui ont distribué le plus leurs gènes parce qu'ils étaient chefs de troupe, etc. Et que ces individus avaient un comportement précisément de domination, voire violent, voilà, de quête de puissance, et que donc on aurait hérité de ces individus-là par rapport à d'autres qui l'étaient moins. On peut même extrapoler ça au niveau d'une civilisation pour en revenir. C'est entre la civilisation qui a su se restreindre et celle qui n'a pas su se restreindre. Bon, bah, c'est celle qui s'est pas restreint, qui est plus violente, qui est plus dans la conquête, qui gagne et dont on descend. Ça, c'est encore un autre niveau, mais on pourra aborder ça. Mais pour autant, on observe qu'il y a un grand panel de comportements humains. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui ont beaucoup de mal à se restreindre, qui sont avides de pouvoir, de sexe, de jeu, etc. Et puis dans le même temps, il y a des gens qui ont aussi un cerveau humain, qui nous vient aussi très loin, qui est composé à peu près pareil, et qui sont tout à fait capables de méditer, de se restreindre, de vouloir décroître. Donc, ça pose la question vraiment de la nature humaine et de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Parce que quand on dit quelque part, c'est en nous, c'est dans notre nature, c'est ancré dans notre cerveau, et il y a ce truc-là qui nous vient de loin, donc on n'y peut rien, on a cette pulsion de croissance. Est-ce que c'est pas un peu trompeur? Et ça me permet de, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut voir, moi que j'ai pas bien compris. C'est-à-dire qu'il y a le sous-titre du bug humain, c'est pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'empêcher. Et pour Striatum, c'est comment notre cerveau peut sauver la planète. Qu'est-ce qui s'est passé un peu entre les deux? Puisqu'on sort du bug humain, et je suis un petit peu long, désolé, mais en se disant qu'il y a justement un bug dans notre nature et que si on consomme trop, c'est parce que c'est notre cerveau qui est comme ça et c'est notre nature profonde et donc c'est plutôt mal barré. Mais dans Striatum, bah, vous nous dites qu'en fait, il y a ce cortex préfrontal qui nous permet de dominer ce Striatum, de dominer nos pulsions et que donc, on peut se restreindre. Donc, est-ce qu'il y a effectivement un bug dans notre cerveau ou alors est-ce que c'est juste qu'aujourd'hui il est mal utilisé ou qu'il y a tout un tas de choses dans nos structures, dans notre culture, dans nos modèles qui n'est pas propice à la restreinte. Voilà, pour faire ça distinct, oui. Parler de nature humaine en fait. Est-ce que c'est dans notre nature de faire ça?
Voilà, c'est la fin de la première partie. Je coupe la conversation au milieu pour que vous puissiez éventuellement faire une pause. Et sinon, je vous invite à continuer tout de suite dans la partie 2, disponible juste en dessous ou au-dessus sur votre appli. À tout de suite.